Bonjour, la Terre au Carré, Bruno de Gironde. Bravo pour votre émission sur la forêt de Stains. J'ai travaillé beaucoup sur ces coins. Petite information pour tout le monde. Landiraseux, qui est un méga feu exceptionnel, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Personne n'est d'accord sur l'appellation. En fait, il brûle 5000 hectares le premier jour. Il brûle 2000 hectares de plus le second et 400 hectares de plus le troisième. Pourquoi il s'arrête? Personne n'en parle. En fait, il se heurte à un grand réseau hydraulique qui s'appelle la vallée de la Lair et sa ripisylve, et c'est elle qui fait le boulot. Donc, c'était pour dire que le combat futur, c'est la préservation des feuillus dans ce secteur et dans tous les secteurs des Landes de Gascogne où ils sont toujours présents, malgré la forêt mono-essence et monoculture. Voilà, merci à vous.
Bonjour, c'est Isabelle Autissier du WWF. Je voulais répondre à la question de Catherine de Honfleur à propos des peluches vendues sur le site du WWF. Alors oui, elle a raison. Aujourd'hui, il y a encore un certain nombre, même pas mal de peluches qui viennent de Chine. Il s'agit d'un achat conjoint au niveau mondial hein, pour tous les WWF. Qui est géré par l'international. Ces peluches répondent à une certification, qui est la certification Blue Angel du gouvernement allemand, qui est un label de protection à la fois des personnes et de l'environnement et des critères stricts. Malgré tout, nous, au WWF France, on s'interroge beaucoup là-dessus. Elle a raison de le souligner. On a décidé il y a déjà plusieurs mois que ce contrat s'achève fin 2022. Et on est en train d'essayer de regarder si on peut trouver un coût relativement abordable, le même genre de choses, mais venant d'Europe ou encore mieux de France. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc si on trouve pas, ben on arrêtera tout simplement de proposer des peluches ou des objets aux gens qui, par ailleurs, nous soutiennent et qu'on remercie. Voilà, bonne journée, au revoir.
Oui, bonjour la Terre au Carré, c'est Claire, près de Lyon. Bon, rentrée un peu difficile après cet été catastrophique. Et puis, cerise sur le gâteau, par exemple, un industriel chez lequel on travaille, qui payait environ 600 000 euros d'électricité par an. Sur le mois de juillet, il en a payé 200 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait? Il va installer des groupes électrogènes. Comme ça, ça va tourner au fioul. Et puis, il paraît que les loueurs de groupes électrogènes, ils en louent aussi à EDF. Donc voilà, je ne sais pas si on va sortir de l'affaire. On verra. Courage.
Bonjour, Jean-Claude. J'appelle de Dordogne, à côté de Périgueux. Je suis co-président d'une association qui s'appelle SOS Forêt d'Ordogne et je réagis par rapport à l'émission que je viens d'écouter sur la conséquence des incendies dans les Landes de Gascogne. Ben oui, chaque région a sa spécificité. J'étais d'accord avec l'auditeur qui avait dit que la forêt de Gascogne n'est pas une forêt, mais une plantation d'arbres dans un but strictement économique, ce que justifie effectivement la manière outrancière dont elle est gérée. Et le mépris pour les écosystèmes, ceci étant, elle n'est pas très significative malgré 100 millions d'hectares de ce que sont les forêts en France. Donc, je vous engage à venir faire un petit tour en Dordogne, où ça a quand même beaucoup brûlé aussi. Et nous sommes sur une spécificité tout à fait différente, avec beaucoup plus d'essence, beaucoup plus de diversité, de biodiversité. Et vous verrez que le lobby des forêts landaises est en train d'arriver en Dordogne et que peut-être tous ces incendies seront l'occasion d'une prise de conscience collective pour montrer que c'est pas ce qu'il faut faire si on veut avoir des forêts pérennes, diverses et variées. Merci.
Et merci à vous Jean-Claude pour votre message et votre invitation également dans le Périgord. Et puis je vous renvoie également sur l'émission qu'on avait présentée en direct de la forêt des Vosges en octobre dernier où nous avions justement parlé beaucoup de l'importance de la diversité de ces essences. Vos messages en tout cas pour le répondeur, c'est le 01 56 40 45 45. Ce sont des images de l'univers comme on ne les avait jamais vues auparavant. Elles sont époustouflantes. On les doit au nouveau télescope James Webb qui, dès le début de l'été, a livré ses premiers clichés après quelques mois seulement de mise en service. Ces images ouvrent des portes inédites sur l'infini grâce aux observations dans l'infrarouge. Une nouvelle aventure scientifique dans l'histoire de l'astronomie moderne. Et aujourd'hui même, James Webb a révélé la première image directe d'une exoplanète, pour lui, en tout cas pour ce télescope, planète située en dehors de notre système solaire. Cet après-midi, donc, on vous emmène dans l'œil de James Webb, aux performances donc très prometteuses, et vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos invités. Romane Le Gall avec nous en studio, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et Eric Lagadec en duplex de France Bleu Azur à Nice. Bonjour à vous Eric.
Bonjour.
Romane Le Gall, vous êtes astrophysicienne spécialisée en astrochimie au sein de l'Observatoire des sciences de l'univers à Grenoble. Éric Lagadec, vous êtes également astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. On va donc se retrouver dans un instant pour parler galaxies, étoiles, exoplanètes et même trous noirs avec les messages et les questions sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter pour vous entendre directement avec les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Passage au vert à 14h30.
Oui, je vais remonter loin, moi aussi, pas dans l'univers, je vais remonter aux origines de notre bipédie ici sur Terre.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardi avec à la technique aujourd'hui Pauline Laverdure.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Décollage.
Niché dans le nez de la fusée Ariane 5, le télescope James Webb a enfin pris son envol tout à l'heure. Replié le temps du voyage, une trentaine de minutes, avant la délicate opération de séparation et sa mise sur orbite.
Séparation Webb Space Telescope. Go Webb !
Première victoire pour les équipes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Cela fait 30 ans qu'ils y travaillent avec les Canadiens.
Et le décollage, c'était à Kourou, donc le 25 décembre dernier. Ariane 5 avec à son bord donc James Webb, qui, 6 mois plus tard déjà, livrait ses premières images époustouflantes depuis son orbite située à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et avec nos invités astrophysiciens, on va faire le point donc sur les premières images. Et puis on va vous raconter en quoi ce télescope va ouvrir de nouvelles portes justement dans l'univers. Romane Le Gall, Éric Lagadec, est-ce que d'abord vous pourriez nous dire ce que vous avez ressenti en voyant dès le 12 juillet la première image donc révélée au public par James Webb, image d'une précision, d'une beauté esthétique aussi assez étonnante. Romane Le Gall, c'était déjà une réponse à la promesse de ce télescope,
hein. Oui, c'était une belle une image donc, du champ profond faite avec le James Webb, avec toutes ces étoiles et ces galaxies en fond, et en comparaison aussi avec ce qu'avait observé Hubble. Donc c'était époustouflant, et c'était aussi époustouflant de voir qu'en fait, en quelques heures d'observation, en une douzaine d'heures d'observation, le James Webb surpassait en fait ce que Hubble avait obtenu en plusieurs semaines d'observation. Ouais. Donc c'était assez impressionnant.
Ouais. Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette image? Vous dites époustouflant, mais derrière ça, il y a quoi encore?
Époustouflant, aussi émerveillé, et donc très curieuse aussi de voir toutes ces galaxies très lointaines qu'on voyait dans cette image de champ profond, ou qui ont été aujourd'hui déjà datées de plus de 13 milliards d'années. Donc on est à moins de 1 milliard d'années de la naissance du Big Bang. Donc on arrive déjà à capter des lumières très lointaines. Et donc ça, c'était stupéfiant.
Ouais. Éric Lagadec, vous l'avez commenté tout de suite sur vos réseaux sociaux. Enfin, après Joe Biden, c'est lui qui a eu la primeur quand même du commentaire de cette première image de la NASA, donc de James Webb. Pareil, quel sentiment pour vous?
C'était une soirée assez particulière, on avait vraiment une ébullition dans la communauté des astronomes, donc il y avait tout le monde qui attendait, on savait que ça allait être publié, que Joe Biden allait le faire, et Joe Biden arrivait un peu en retard, donc on avait la musique d'attente de la NASA qui ressemblait un petit peu à une musique d'ascenseur. C'était le sujet de pas mal de blagues parmi les astronomes, il y avait même des gens qui avaient vu dans un reflet l'image, donc ils ont commencé à analyser ce qu'on avait vu sur une image où on voyait quelqu'un qui montrait la photo à Biden. Et après, voilà, cette image est arrivée, et c'était vraiment merveilleux de se dire que, voilà, en quelques heures, le James Webb pouvait recevoir de la lumière qui avait mis 13,1 milliards d'années à arriver sur le télescope. Donc, on voyait l'univers jeune. Et on s'est aussi tout de suite amusé à regarder, il y avait des galaxies partout, à essayer de comprendre ce qu'on voyait, de chercher des belles galaxies, et ouais, tout le monde partageait ces belles galaxies. C'était beau de voir cette ébullition parmi les astronomes. Ouais.
Il y avait un aspect esthétique aussi, c'est un vrai tableau aussi cette image. Et puis elle arrivait bien en premier parce qu'elle nous montrait quelque chose aussi de très large des galaxies, Éric Lagadec. Hein.
Exactement, et c'est magnifique. En plus on se dit, je sais pas si, là je vais faire un geste bizarre à tous les auditeurs.
On le verra pas, mais bon.
Vous tendez le doigt et vous mettez un grain de sable sur votre doigt et vous regardez le ciel. En fait, ce qu'on voit en regardant le grain de sable, c'est la taille de l'image sur le ciel, donc c'est quelque chose de minuscule, et là-dessus on voit des centaines, des milliers de galaxies, donc c'est vraiment un tableau qui nous montre l'univers et l'évolution de l'univers sur un champ tout petit. C'était vraiment merveilleux, ouais, et esthétiquement joli.
Romane Le Gall, ça promet quand même, hein, parce que déjà cette moisson d'images, parce qu'on va en commenter plusieurs pendant cette Terre au carré, depuis le mois de juillet, alors que James Webb va être en service pendant 10, 20 ans à peu près.
On espère 20 ans, oui.
Ça va être complètement dingue ce qu'on va voir de l'univers, non?
Ah bah oui, là c'est juste les cas test, on va dire. Là on est vraiment en train de tester les performances, les premiers, en fait les cas attendus finalement. Là on est vraiment en train de voir que tout fonctionne à la perfection. On est déjà en train de voir qu'on a qu'on excède en fait les capacités du James Webb avec ce qui était déjà prévu sur ce qu'on connaissait déjà de l'univers. Donc là déjà c'est extrêmement prometteur pour en apprendre beaucoup plus sur ce qu'on connaît déjà de l'univers, et bien sûr tout l'inconnu aussi qui est très excitant qu'on va apprendre avec James Webb.
Éric Lagadec, aujourd'hui même une autre image importante nous a été envoyée par le James Webb. C'est la première image directe d'une exoplanète prise donc par ce télescope. Et là aussi, on a finalement un degré de précision jamais égalé. C'est ça qui différencie aussi tout ce qu'on avait connu dans le passé. Parce que des images directes d'exoplanètes, on en avait eu déjà, mais une comme ça, jamais, hein.
En fait, ce qui est nouveau, c'est qu'on observe en infrarouge et du coup, on peut mieux étudier les propriétés de l'atmosphère de la planète. Donc ça permet vraiment, je vais pas tout révéler parce que ça va être annoncé officiellement à 16h aujourd'hui, mais ça nous permet vraiment de mieux comprendre cette planète, et ça sera révélé donc par les collègues de Marseille, de Paris, de Lyon et de Grenoble et du CEA à Paris aussi. Oui. Donc je vous invite tous à suivre ça, et vraiment ce qu'on va voir avec cette image, c'est qu'on peut mieux comprendre cette planète qui a été découverte par l'instrument Sphere. J'ai eu la chance d'ailleurs de participer à la découverte de cette planète.
Oui.
C'est une planète qui ressemble un peu plutôt à Jupiter, donc un peu plus massive que Jupiter, 7 ou 8 fois la masse de Jupiter. Et là, on a l'image dans l'infrarouge, donc on a pu mieux déterminer son rayon, sa température, sa masse. Et c'est vraiment très prometteur, ce qu'on voit, que les performances du James Webb sont meilleures que ce qu'on pensait. Et du coup, on va pouvoir vraiment mieux comprendre les exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles. C'est vraiment très prometteur.
Romain Le Gall, c'est quand même dingue, parce que quand on pense qu'en 1995, on a découvert la première exoplanète, l'existence même. C'est-à-dire qu'avant, on n'imaginait même pas, on ne pouvait pas savoir exactement s'il y avait d'autres planètes que les nôtres. Hein.
Oui,
et là, ça y est, on les a en image.
C'est ça qui est fou. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le James Webb, la mission initiale, elle a été conçue dès que le Hubble a été envoyé dans l'espace, donc en 90. Et en 90, on n'avait pas encore détecté d'exoplanètes. Donc la mission initiale de James Webb, c'était pas les exoplanètes, c'était d'aller voir les lumières les plus lointaines de l'univers, parce qu'on savait que l'univers était en expansion, et donc que la lumière la plus vieille émettait dans le rouge, dans l'infrarouge, non accessible par Hubble. Et donc c'était vraiment le premier objectif de James Webb. Et quand la première exoplanète a été détectée, et ensuite a suivi une succession exponentielle de découvertes d'exoplanètes, ils se sont dit, pour observer les atmosphères, il faudrait un télescope dans l'infrarouge, etc. Et James Webb était en train d'être construit.
Ouais.
Et là, ils se sont dit, on va rajouter à James Webb sur les instruments, donc des coronographes, par exemple, donc des masques en fait qui permettent de masquer la lumière de l'étoile, pour aussi pouvoir faire l'étude des exoplanètes.
Mais heureusement, hein.
Oui, heureusement.
Parce qu'aujourd'hui, on en a déjà les fruits là, finalement. Ouais. De quelle façon vous êtes impliqué vous dans le James Webb? Expliquez-nous quand même qu'on comprenne bien.
Alors moi, je suis impliqué donc surtout pour la partie analyse scientifique et la science qui va être faite avec. Donc je suis déjà impliqué sur 3 programmes d'observation. Donc l'un des 13 programmes précoces d'observation dont les coordinateurs sont 2 Français, donc Olivier Bernet à Toulouse et Émilie Abar à l'IAS. Donc ça, on va commencer à obtenir les observations à partir du 10 septembre de la nébuleuse d'Orion. Donc la nébuleuse d'Orion qui est aussi très connue des astronomes amateurs, donc qui va aussi beaucoup faire parler d'elle. Et puis ensuite, je suis impliquée sur 2 autres programmes, donc qui ont été obtenus avec du temps ouvert d'observation. Donc les données ne seront pas publiques tout de suite. On a 1 an d'exclusivité sur ces données pour les analyser et les exploiter au maximum. Et on est déjà en train d'analyser ces données de disques protoplanétaires qui sont en fait des systèmes planétaires en formation, où on peut déjà en fait caractériser la matière de ces disques et potentiellement, dans un futur lointain, formeront des planètes.
Voilà, donc c'est les pouponnières aussi d'étoiles.
Les pouponnières d'étoiles.
Dans
et
lesquelles
des planètes.
Les planètes vont se former un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment des systèmes en tout petit, en miniature, avant de donner des systèmes comme le nôtre.
Des systèmes de quelques millions d'années. Donc sachant que nous, notre système solaire, c'est 4,5 milliards d'années. Donc c'est vraiment l'état bébé, en fait, de notre système solaire. Ouais. Enfin, d'un système comme éventuellement le nôtre.
Éric Lagadec, avant de passer aux questions des auditeurs et à celle de Camille qui trépine, parce que je sais qu'elle a plein de choses à vous demander. Ce James Webb, là, ce télescope, pourquoi on en a besoin finalement aujourd'hui? À quel type de questions ça va pouvoir répondre fondamentalement pour la science?
Oui, ça va répondre à énormément de questions. Il y en a 4 principales et c'est des questions vraiment fondamentales. C'est essayer de comprendre nos origines. Donc il y a l'origine, l'univers s'est formé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Là, la question, ce qu'on va se poser, c'est à quoi ressemblent les premières étoiles? À quoi ressemblent les premières galaxies? Comment elles évoluent? Ensuite, on va voir les étoiles, ça va engendrer du gaz et de la poussière. Donc l'idée, ça va être de comprendre comment ce gaz et cette poussière vont évoluer dans le temps. Donc vraiment comprendre le fameux « nous sommes des poussières d'étoiles ». Et enfin, la dernière chose, c'est ces exoplanètes qui ont été découvertes en 1995. Et découvrir, parce qu'en fait, sur Terre, elles sont compliquées à observer à cause de l'atmosphère, parce que l'atmosphère d'une va rendre les images floues, mais va aussi absorber une partie du rayonnement. Je pense que tout le monde sait que l'atmosphère absorbe en partie les rayons ultraviolets, mais l'infrarouge aussi. Et donc l'infrarouge, si on veut observer des signatures spectrales, par exemple d'eau ou de CO2, on a besoin d'aller dans au-dessus de l'atmosphère, et ce télescope va nous permettre de faire ça.
On parle d'objets très lointains, mais il ne faut pas oublier aussi que James Webb, c'est aussi notre propre système solaire, et on va en parler avec des images là aussi assez stupéfiantes de Jupiter qui ont été révélées ces derniers jours. Allez, on se retrouve dans un instant, et bien sûr les messages et les questions qui arrivent sur le site de la Terre au Carré.
Remember when you wonder what was true? That's your instinct for conflict. Got you looking like a fool.
Well, I gave you all I had, and all the good and bad, but you just couldn't see what a good man means.
I couldn't even love you better, 'cause what we had together in this forever. Listen, baby,
Love You Better, c'était Monophonix sur Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Jamais l'homme n'aura vu aussi loin dans l'univers. Comme sur ce cliché, ces points lumineux, ce sont des galaxies vieilles de 13 milliards d'années, soit juste après le Big Bang. Cette équipe de scientifiques françaises a participé à la conception du télescope. Au-delà de l'émotion, ces tout premiers clichés sont une nouvelle source de connaissances inestimables.
On a une sorte de bateau qui va nous emmener dans des lieux inconnus. Donc les premières galaxies, zones jamais observées.
L'astrophysicien du CEA Pierre-Olivier Lagage au micro de TF1. C'était le 22 août dernier. Ce grand bateau dont nous parlons, c'est le télescope James Webb. Voyage dans lequel on vous embarque avec nos invités. Éric Lagadec depuis Nice et Romain Le Gall avec nous en studio. Avant d'accueillir les premières questions, Romain Le Gall, on parlait de l'infrarouge tout à l'heure. Donc c'est la technique, la lumière qui permet justement à James Webb de nous donner tous ces clichés. Vous pouvez nous rappeler justement ce qu'est exactement l'infrarouge? Est-ce que ça permet?
Alors l'infrarouge, en fait, ce que ça va surtout détecter, c'est la chaleur des objets. Donc tout objet qui dégage de la chaleur peut être observé en infrarouge. Donc c'est comme si on mettait des caméras thermiques sur nos yeux, ce qui est utilisé par exemple dans le domaine militaire, et qui va permettre de voir en fait la température d'un objet. Donc c'est vraiment ça qu'on arrive à capter avec James Webb. C'est comme ça qu'il observe les exoplanètes et les différents astres qui sont dans le cosmos.
Et c'est ce qui change tout sur le degré de précision justement des objets qu'on peut observer ?
Et donc, ce qui change, alors c'est vraiment ça a ouvert une nouvelle, on dit que ça a ouvert une nouvelle fenêtre spectroscopique sur l'univers, parce qu'il y a vraiment toute cette gamme en infrarouge qu'on ne peut pas observer depuis la Terre, comme l'expliquait tout à l'heure Eric Lagadec. Et donc, on est pollué sur la Terre, avec l'atmosphère, on ne peut pas observer cet infrarouge-là, donc c'est pour ça qu'on doit l'emmener, le télescope est embarqué sur un satellite. Et aussi, c'est pour ça qu'il est refroidi et aussi protégé, en fait, avec ses boucliers solaires de la lumière à la fois de notre Soleil, mais aussi de la Terre et de la Lune, protégé derrière ces grands pare-soleils qui font la taille d'un terrain de tennis et qui le protègent pour lui permettre d'être refroidi aux températures nécessaires pour observer l'infrarouge.
Éric Lagadec, on avait depuis les années 90 le télescope Hubble, qui a bien bossé aussi, avec plus d'un million d'images qui ont été justement révélées. Quelle est la différence fondamentale là aussi entre les deux télescopes ? Ils ne sont pas du tout positionnés au même endroit. Il y a une distance avec James Webb qui, on le disait tout à l'heure, est à 1 500 000 km de la Terre. Ça fait aussi toute la différence ou pas ?
En fait, il y a plusieurs différences. Bon, il y a la distance déjà. Hubble est tout simplement en orbite autour de la Terre. D'ailleurs, Hubble, quand il a été lancé, il ne marchait pas très bien, il était myope. Il y a des astronautes qui sont allés le réparer. Là, 1,5 million de kilomètres, ça va être plus compliqué. C'est aussi pour ça que c'était un grand défi, le James Webb. Il fallait vraiment que tout fonctionne du premier coup. Hubble fonctionne à des longueurs d'onde différentes, donc il ne va pas observer la même chose. J'aime bien faire l'analogie de dire que quand on va par exemple à un concert, imaginez si vous allez à un concert, vous êtes juste capable d'écouter les « là ». Vous aurez du mal à comprendre la musique. Bah là, si on a un télescope, plusieurs télescopes qui fonctionnent à différentes longueurs d'onde, donc à différentes couleurs, on comprendra mieux l'univers, la mélodie de l'univers, même s'il n'y a pas de son dans l'univers. Et la troisième différence, qui est vraiment fondamentale, c'est la taille du télescope. Les télescopes, s'ils sont plus grands, ils ont deux avantages. Un télescope plus grand va recevoir plus de lumière. C'est un petit peu comme si vous avez un seau. Quand il pleut, vous prenez des seaux. Bah, plus le seau est grand, plus vous recevrez de pluie. Bah, avec les télescopes, c'est pareil. Donc, vous recevrez plus de lumière. Vous pouvez observer des choses plus faibles, qui sont soit plus lointaines ou soit intrinsèquement faibles. Et la deuxième chose qui est très importante, notamment pour la détection des exoplanètes, plus un télescope est grand, plus il a une grande résolution. Ça veut dire qu'on est capable de voir des détails. Imaginez si vous êtes en train de suivre une voiture, vous essayez de lire la plaque. Bah, si vous n'arrivez pas à lire, si vous aviez des yeux plus grands, vous pourriez le faire. Donc ce télescope a ce pouvoir. Plus il est grand, plus il permet de voir de grands détails. Donc le James Webb permet à la fois de recevoir plus de lumière, de voir plus de détails, et en plus il observe dans l'infrarouge, donc c'est vraiment une révolution.
Combien de temps mettent les observations de James Webb à arriver sur Terre ? Et est-ce que vous pouvez expliquer, Eric Lagadec, la différence et le fait qu'on parle d'images et pas de photos ?
Alors, ça met le temps de parcourir, donc c'est à quelques minutes, hein, ça va assez vite. Mais la différence entre images et photos n'est pas vraiment fondamentale, dans le sens, enfin, moi j'utilise le mot image parce que c'est le terme plus technique que j'utilise, mais ce qu'il faut savoir déjà, et c'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens, c'est que justement, les gens me demandent toujours quand va arriver la prochaine photo du James Webb. Nous, astronomes, là je pense que Roman confirmera aussi, on attend beaucoup de spectres. C'est quelque chose qui va nous donner beaucoup d'informations. Donc les spectres, on va décomposer la lumière qu'on reçoit des étoiles en différentes couleurs. Mais pour répondre exactement à la question des images, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une image astronomique, c'est quelque chose, c'est donc, on a un détecteur, vous en avez certainement sur votre téléphone aussi. Donc sur le détecteur, la lumière arrive à atteindre des pixels. Et ce qu'on a, c'est juste des chiffres. Donc chaque pixel a un certain nombre de grains de lumière, en gros, qui sont arrivés. Et ça, on va le transformer en photo après, en changeant les couleurs. Donc c'est les couleurs, on va pouvoir le faire. Par exemple, les images que vous avez vues là, ça a été obtenu à différentes couleurs. On a pris les images individuelles et on les a composées pour faire un mix, pour avoir une petite idée. Évidemment, pas ce que pourrait voir l'œil, parce que ce sont des images infrarouges, mais rendre quelque chose esthétique. Et c'est un gros travail. C'est d'ailleurs, j'aime bien mettre en avant tout à l'heure, Mathieu parlait de l'image de Jupiter qui a été publiée. L'image de Jupiter, c'est un excellent travail d'amateurs. Ce sont j'aime bien dire la science citoyenne. C'est quelqu'un qui s'appelle Judy Schmidt. C'est une américaine qui adore traiter ces images, justement, et en faire des choses de toute beauté. Et la plupart des belles images que vous voyez viennent de personnes comme cette personne, Judy Schmidt. Et c'est vraiment magnifique de voir ce que peuvent faire des citoyens pour la science.
Roman Le Gall, il y a combien d'images qui sont publiées tous les jours par James Webb ? Et est-ce qu'il y a assez d'astronomes aujourd'hui sur Terre pour toutes les analyser ?
Alors c'est une bonne question. Combien d'images par jour? Alors ça, je pourrais pas vous répondre précisément. Eric, je sais pas si tu as une réponse précise, une dizaine ou je sais pas.
J'ai pas de réponse précise, mais dans le sens, il faut savoir que une image que vous voyez, par exemple, quand vous avez un communiqué de presse avec une belle image, c'est souvent la combinaison de dizaines ou de centaines d'images. Donc il y a énormément d'images qui sont prises tous les jours.
Et l'observant en permanence, oui.
Voilà.
Et donc il faut énormément d'équipes pour analyser tout ça, hein?
Oui, alors bah là, les équipes sont déjà prêtes, hein, parce qu'en fait, c'est des projets. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que les équipes ont soumis des projets observationnels, hein, donc des projets de recherche d'observation. Donc c'est déjà des projets qui ont été validés en fait par un comité de sélection du James Webb, qui sélectionne les projets qui vont être observés, qui ont déjà été tous planifiés. Donc les équipes en fait sont déjà prêtes et au taquet pour analyser leurs données.
Vous disiez qu'il y avait pas de son dans l'univers, Eric Lagadec. On va écouter quand même un son qui nous a été livré par la NASA il y a quelques jours sur le son d'un trou noir. Donc on va l'écouter et puis on va le commenter ensemble dans un instant. C'est plutôt lugubre comme ambiance. Alors, comment c'est-il qu'on ait ce son? À quoi ça correspond là, si on n'a pas de son dans l'univers?
En fait, je pense que ce son qui a été publié, la NASA l'explique assez bien quand il le publie, mais malheureusement, il a été partagé de manière un petit peu maladroite par beaucoup de personnes. Parce que ce qu'on voit là, en gros, c'est un trou noir qui se trouve dans l'amas de Persée, donc c'est à plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Et autour de cet amas de galaxies, il y a beaucoup de gaz. Et l'interaction du gaz avec le trou noir crée des ondes. C'est exactement, vous prenez un caillou, vous le jetez dans un lac, si la surface est plate, vous verrez des petites ondes qui se déplacent. Et quand il y a une onde qui se déplace comme ça, on peut transformer ça en son. Donc on capte pas le son. Donc vraiment, ce qu'a capté la NASA, ce sont des images. Il y a aucun son qui n'arrivait sur un télescope sur Terre.
Ouais.
Ils ont transformé ce son, qui était un son inaudible par l'oreille humaine. Enfin, ils ont analysé l'image pour imaginer le son que ça donnerait. Et ensuite, ils ont transformé ça pour le rendre, donc ils l'ont augmenté de 57 ou 58 octaves, si je me rappelle bien, pour le rendre audible à l'être humain. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que ce son a été partagé comme si c'était, voilà, les astronomes, on a écouté l'univers et voilà ce qu'on a entendu.
On a mis l'oreille au bord d'un trou noir et voilà ce qu'on entend, voilà. Et c'est évidemment pas la réalité.
Exactement, même si beaucoup de gens ont peut-être vu le film Contact avec Jodie Foster qui écoute les ondes radio, je tiens à préciser que les ondes radio sont des ondes électromagnétiques, c'est donc de la lumière en fait, c'est vraiment la radio, l'onde radio ne s'écoute pas, on peut écouter la radio qui est un moyen de transport de l'information, mais l'onde radio est de la lumière.
Petite précision qui était nécessaire. Allez, on se retrouve dans un instant, on va commenter donc quelques-unes des images et des découvertes également importantes autour du CO2, autour de l'eau, également autour d'exoplanètes, tout ça fait beaucoup de commentaires ces derniers jours et vous êtes nos invités pour en parler.
France Inter, la Terre au carré.
14h32, Camille, on passe au vert, Camille Cronier.
Et je vais nous faire remonter très loin, moi aussi, mais pas dans les étoiles. Ici, sur notre bonne vieille Terre, il y a 7 millions d'années, où on trouve les traces les plus anciennes de l'humanité. Espèce Sahelanthropus tchadensis, incarné par le célèbre Toumaï, nom donné à ce crâne, découvert en 2001 au Tchad, et vieux donc de 7 millions d'années. Depuis des années, on se demandait si Toumaï et ses copains étaient bipèdes ou pas, sachant que les hypothèses penchaient largement pour le oui, vu certains indices sur le crâne. Eh bien, il y a du nouveau avec une étude publiée dans le magazine Nature et menée par une équipe franco-tchadienne. Sahelanthropus tchadensis était bien bipède et même plus, bipède au sol et posture adaptée dans les arbres. Le paléontologue Jean-Renaud Boissery fait partie du laboratoire CNRS Palévoprime de l'Université de Poitiers. C'est l'un des 9 auteurs.
C'est un mode de locomotion qui est assez flexible et qui correspond au final assez bien à un environnement qui était très diversifié dans ce bassin du lac Tchad à l'époque, avec des zones boisées, des palmeraies, avec des zones beaucoup plus ouvertes. Et donc, on a affaire à des humains qui étaient relativement opportunistes, flexibles dans leur comportement et qui pouvaient vraiment tirer parti de la diversité de l'environnement dans lequel ils vivaient.
Alors, n'imaginez quand même pas Sahelanthropus gambadant, cheveux au vent. Son mode de progression était très lent, irrégulier. Il faisait attention au moindre de ses appuis au sol. Et dans les arbres, quand il se mettait pas à quatre pattes, c'était ce qu'on appelle de la bipédie assistée. Et là, c'est le paléoanthropologue Franck Guy qui explique.
Si vous vous imaginez un pont de singe, Vous avez une corde en haut sur lesquelles prennent appui vos mains, et puis une corde en bas sur lesquelles prennent appui vos pieds, et vous vous déplacez entre ces deux cordes. Et c'est la bipédie assistée, c'est ça. Je suis sur mes membres inférieurs, sur une branche quelconque, et avec mes mains, je vais m'appuyer, me soutenir pour garder un équilibre dans mon mode de déplacement.
Alors, vous allez me dire, mais comment savent-ils tout ça? Eh ben, ils ont bossé, hein, 5 ans de recherche, non pas sur Toumaï, le célèbre crâne, mais exclusivement sur 3 autres fossiles découverts sur le même site, un fémur et 2 ulnas, les os de l'avant-bras, sans qu'on sache au passage s'ils appartiennent au même individu.
Il est possible que les 2 ulnas soient un droite et un gauche d'un même individu. C'est pas une certitude absolue. Et pour les autres, on ne sait absolument pas. On ne sait pas si le fémur allait avec les ulnas, et si le fémur ou les ulnas allaient avec le crâne. Et on le saura vraisemblablement jamais.
Mais les 3 os appartiennent bien à l'espèce Sahelanthropus tchadensis. Ils ont été scrutés en 2D, en 3D. Et Guillaume Davert, paléoanthropologue derrière l'étude, lui aussi raconte la suite.
Pour le fémur, sur lequel s'appuie essentiellement notre diagnostic de bipédie, on a pu relever 16 critères morphologiques. Ces critères, on les a comparés à un certain nombre de grands singes actuels et fossiles et d'humains actuels et fossiles. On a pu établir que ce qui ressemblait le plus aux sahelanthropes, ce sont des humains fossiles. Les 2 os de l'avant-bras nous permettent de décrire un peu plus ce à quoi ressemblait le comportement, notamment dans les arbres, de ces sahelanthropes. Et on s'est rendu compte, sur la base d'un certain nombre de critères, au niveau du coude notamment, que on pouvait écarter, par exemple, le fait qu'ils se déplaçaient en quadrupédie au sol. Par contre, on pense qu'il était capable de se déplacer sans trop de difficultés à 4 pattes dans les arbres.
Voilà, répertoire varié. Alors certains pourraient penser que cette diversité des modes de locomotion existe chez d'autres espèces. C'est vrai, après tout, les singes peuvent pratiquer la bipédie ou les kangourous, par exemple. Mise au point de Franck Guy.
Ce que montre essentiellement aussi notre article, c'est que c'est pas forcément la bipédie en tant que telle qui est une caractéristique humaine, c'est qu'il y ait des indicateurs squelettiques d'une adaptation à ce mode de locomotion. C'est-à-dire ce qui fait de nous des humains, c'est que notre squelette est adapté à ce mode de locomotion. C'est non pas qu'on peut pratiquer ce mode de locomotion, plein d'animaux le font, mais nous, on a un squelette qui est adapté à ça, vraiment. Ça veut dire qu'à un moment, on a tiré un avantage, un bénéfice de se mouvoir avec cette forme de locomotion. Et c'est cet avantage-là qui va être canalisé dans notre histoire évolutive et qui va faire qu'aujourd'hui, on ne se déplace plus que comme ça.
Une évolution lente, hein, 7 millions d'années, on n'est pas devenu 100% bipède d'un coup du jour au lendemain. Et ces recherches permettent bien sûr d'ouvrir nos connaissances.
Ça touche un peu plus à notre identité à tous, globalement, donc il y a forcément un peu d'empathie pour la question, si on peut dire.
Ça apporte quand même des éléments qui vont nous permettre de comprendre comment nous avons évolué, comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Au fil du temps, à confronter évidemment avec tout un tas d'autres éléments de l'environnement, de l'écologie, etc.
Jean-Renaud Boisserie, Guillaume Davert, Franck Guy et les autres ont encore beaucoup de choses à découvrir. L'environnement et l'écologie, donc de Sahelanthropus, mais aussi les différences entre les mâles et les femelles. Essayez d'avoir aussi une vision globale de l'histoire de l'évolution humaine au Tchad, où les 3 fossiles vont repartir dans des coffres forts. D'ailleurs, ça va pas trop stressant de manipuler des éléments de 7 millions d'années et donc ultra précieux?
Ça fait peur. Ça fait peur, on n'a pas envie de les faire tomber, de les casser et d'être discriminé par l'ensemble de la communauté pour avoir fait une bêtise pareille.
Mais on a un peu l'habitude quand même.
Donc, alors autant vous dire que eux n'auraient jamais apporté le fémur ici en studio, comme l'avait, je le rappelle, fait Michel Brunet en 2018 dans l'émission.
Dans la tête au carré à l'époque, et quel souvenir. C'était Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr.
Romane Le Gall, la question vous la pose à chaque fois, j'imagine, Eric Lagadec aussi, mais on est d'accord que James Webb va pas d'un coup vous envoyer des données, puis hop, vous allez voir un petit humain quelque part qui traîne dans l'univers. Je pose la question, mais je connais la réponse. Hein.
Alors là-bas... Je pas répondre. Enfin, c'est pas ce qui est attendu, mais nous, ce qu'on va déjà chercher à observer, surtout dans la composition des atmosphères d'exoplanètes, c'est leur composition chimique et donc ce qui va les premières bribes en fait d'indices pour savoir s'il y a une potentielle vie sur une planète, ce serait de détecter ce qu'on appelle des biomarqueurs aujourd'hui, donc en gros un cocktail de molécules chimiques, mais on va pas en être non à
non
à
pas pouvoir... une forme d'humain, je parle d'un humain mais évidemment
on pourra pas observer ce qui se trouve à la surface de la planète et voir un petit humain qui nous fait un petit coucou.
Quel dommage Eric Lagadec quand même, hein.
Ouais, en regardant
ce serait extraordinaire quand même de découvrir un humain ailleurs.
Ben c'est sûr, et en écoutant la chronique de Camille, je me disais qu'en tant qu'astronome, on a de la chance parce que nous, on peut observer le passé. C'est-à-dire que si on observe le soleil, on le voit comme il était il y a 8 minutes, comme la lumière, mais mais un temps fini pour nous arriver. On regarde Proxima du Centaure, on la voit comme elle était il y a 4 ans. On regarde la galaxie d'Andromède, on la voit comme elle était il y a 2,5 millions d'années. Donc peut-être que s'il y a des super astronomes au-delà de la galaxie d'Andromède, il y aurait des gens qui seraient capables de voir l'évolution de l'humain il y a 7 millions d'années, comme le voit Camille. Ça serait intéressant. Il faudrait vraiment des très 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 gros télescopes.
Ouais, une vraie machine à remonter le temps, là, pour le coup. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres messages autour du télescope James Webb. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr. L'instant, c'était Fishback sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
On prend la machine à remonter le temps, James Webb, avec nos invités, les astrophysiciens Romane Le Gall et Éric Lagadec. Je vais vous demander à tous les deux, tiens, de prendre une des images de cet été, parce que depuis le 12 juillet, il y a eu énormément de choses, tous les jours, des images superbes, époustouflantes. Quelle est celle que vous choisiriez, vous, Romane Le Gall?
Alors, peut-être les spectres, qui ne sont pas des images, donc de James Webb, il est équipé d'imageurs et de spectroscopes. Donc peut-être les spectres qui ont été observés dans les atmosphères de deux exoplanètes et qui montrent donc la présence d'eau et de CO2 dans chacune de ces planètes.
Ça, ça a été très commenté hein, quand même aussi.
Ça a été très commenté, oui, parce que d'ailleurs, il y a la première publication du CO2 dans Nature, dans cette planète, qui intéresse toute la communauté des chercheurs qui travaillent dans le domaine des exoplanètes, et aussi des chercheurs comme moi qui travaillent sur l'étape plus jeune, les disques protoplanétaires, où se forment ces exoplanètes, et qui nous intéressent pour faire le lien en fait, avec la chimie qu'on observe déjà en fait, dans ces jeunes systèmes, pour comprendre s'il y a un héritage interstellaire de cette matière sur les planètes qui vont se former.
Mais Mais l'eau dont vous parlez sur une exoplanète, ça pourrait être déjà une sorte de biosignature ou pas alors ?
Alors, ce qu'on appelle biosignature aujourd'hui, c'est pas encore bien déterminé ce que c'est. En fait, on s'attend à voir plutôt un cocktail de molécules chimiques, donc un mélange, un ensemble d'espèces qui seraient hors équilibre dans l'atmosphère d'une exoplanète. On ne sait pas encore bien déterminer ce que c'est, parce que ce qui pour nous est d'un déséquilibre dans notre atmosphère terrestre ne l'est pas forcément sur une exoplanète. Mais on pense que d'avoir plusieurs molécules telles que le CO2, H2O, du méthane, CH4, de l'ammoniac, un ensemble de plusieurs de molécules pourrait être indicateur de biosignature.
Et vous, Éric Lagadec, quelle est l'image qui fait battre votre cœur un peu plus vite que les autres ?
Moi, c'est vraiment celle de la nébuleuse de la Carène. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont en tête, mais on a vraiment cet endroit. Donc, il se trouve, c'est une pouponnière d'étoiles. On voit des étoiles qui sont nées. Donc, la partie haute de l'image qui est un petit peu bleue, il y a des étoiles qui se sont formées, qui sont assez massives et qui émettent un rayonnement très puissant. Et cela balaye tout le gaz et la poussière qu'il y a autour. Et en balayant ce gaz, ça en détruit un petit peu, mais ça aussi, ça fait que une partie du gaz et de la poussière va s'effondrer et former des étoiles. Et ça, on voit quasiment en direct de la formation d'étoiles. Et avec le James Webb, comme justement l'infrarouge permet d'aller au travers de la poussière, on voit des étoiles qui viennent de naître. Et cette image est d'un esthétisme vraiment, vraiment impressionnant. Je dois avouer que j'ai presque versé une larme quand j'ai vu cette image. C'était un moment assez émouvant.
Camille.
Luc demande sur franceinter.fr, Roman Le Gall, vous parliez de la caractérisation de certaines atmosphères. Comment James Webb va s'y prendre pour cette caractérisation ?
Donc tout d'abord, ce qu'il va faire, c'est aller observer déjà des planètes détectées par ailleurs avec d'autres télescopes. Hein. Donc parmi les 5000 exoplanètes qui ont déjà été détectées, certaines d'entre elles donc, passent devant leur étoile et peuvent être observées par la méthode qu'on appelle des transits. Et cette méthode-là va permettre en fait d'observer en particulier les atmosphères de ces exoplanètes et de voir donc tout d'abord si elles ont des atmosphères. Parce que ça, on n'en est pas sûr. Et pour celles qui ont des atmosphères, d'analyser leur composition chimique. Donc c'est vraiment le spectre de ces atmosphères qui va être analysé. Et on va déterminer en fait quelles sont les différentes molécules dans ces atmosphères. Donc le CO2, l'eau, comme je disais, l'ammoniac, peut-être de la phosphine, dont on a tant entendu parler. Et qui sont des molécules qu'on pense nécessaires, enfin, ou qui peuvent être des biomarqueurs.
C'était avec Vénus, hein, je crois qu'on avait parlé beaucoup de la phosphine, hein,
oui.
La détection dans l'atmosphère de Vénus.
Autre question de Nicolas, est-ce que le James Webb va pouvoir nous apporter plus d'informations sur la matière noire constituant l'univers, Éric Lagadec ?
Je réfléchis à voix haute. A priori, il n'est pas vraiment fait pour ça. Parce que pour expliquer pour les gens qui ne savent pas, donc la matière noire, si on regarde... Notamment, si on prend des galaxies, qu'on voit la façon dont tournent les étoiles, si on comprend bien la gravitation, on se rend compte que les étoiles tournent pas comme prévu, qu'il y a donc quelque chose qui a une certaine masse, mais qui visiblement n'émet pas de lumière, donc on ne voit pas. Donc, on sait pas exactement ce que c'est, et je suis sûr qu'il y a, en fait, c'est l'avantage de ce genre de télescope, c'est que c'est ouvert à la communauté, donc il y aura certainement des gens brillants qui auront des idées pour faire des choses pour étudier cette matière noire, mais, je suis visiblement pas aussi brillant que ces personnes, donc je ne sais pas moi-même. Mais il y a plein de choses, il y a certainement des choses qui arriveront qui permettront de mieux comprendre en étudiant les différentes composantes de la galaxie. On pourra peut-être faire quelque chose. Qu'il faut savoir qu'avec par exemple Hubble, on pouvait très bien étudier les étoiles et le gaz chaud. Là, on va voir plutôt le gaz froid et la poussière. Donc ça permettra aussi de mieux comprendre ce qu'il y a dans les galaxies.
Et puisqu'on est dans les objets noirs, Éric Lagadec, du côté des trous noirs, est-ce que James Webb aussi pourrait nous permettre d'avoir des images ?
Alors non, là, ça c'est quelque chose de bien différent. Ça, pour le coup, c'est quand on essaie de faire une image d'un trou noir, qu'on a réussi à en faire deux pour l'instant, donc celui au centre de la galaxie M87 et celui au centre de la nôtre, ces trous noirs sont très très petits. J'aime bien faire l'analogie de dire que faire l'image de ces trous noirs, les deux ont à peu près la même taille sur le ciel, c'est comme si je tenais un verre de bière à Munich et que quelqu'un depuis New York essayait de faire une image d'une bulle dans le verre de bière. Donc c'est quelque chose, pour cela, il faut avoir des télescopes très grands. Et les images des trous noirs ont été faites grâce à des télescopes énormes, parce que c'est des télescopes de la taille de la Terre. On a combiné des télescopes qui se trouvaient au pôle sud, en France, sur le plateau de Bure, au Chili, à Hawaï. Et ça a permis de faire un énorme télescope. Alors là, avec le James Webb, on a seulement un télescope de 6,50 m, donc on n'aura pas la résolution, donc le pouvoir de faire des images avec des détails assez grands pour faire les images de ces trous noirs. Mais par contre, vu qu'on peut observer la poussière, on pourra observer l'environnement des trous noirs au centre de certaines galaxies et mieux comprendre justement comment les trous noirs vont influer sur la matière autour et déclencher probablement de la formation d'étoiles. C'est quelque chose qui est assez commun et on pense donc qu'il y a ces grands torts de poussière autour des trous noirs. Donc ça, on devrait pouvoir mieux le comprendre grâce au James Webb.
Encore une question. Fred nous demande s'il sera possible un jour d'observer la lumière émise lors du Big Bang, voire avant le Big Bang, Roman Le Gall.
Bah alors, on en veut plus, hein, on n'en a pas assez en fait.
Alors avant le Big Bang, non. Et puis même au niveau, au moment du Big Bang, en fait, le temps le plus jeune qu'on peut observer, c'est 380 000 ans après le Big Bang. Donc à partir du moment où l'univers devient transparent et qu'il émet vraiment, qu'il libère sa première lumière.
Là, c'est...
Donc désolé Fred, mais on va pas pouvoir.
Pour faire son deuil dès maintenant.
Pas pouvoir observer ça.
Et juste pour Thierry, veut juste être sûr, mais vous allez lui dire clairement, on est d'accord, il écrit que tout ce qui est observé aujourd'hui par James Webb n'existe plus.
Je pourrais répondre. Je pense j'ai vu des images de Jupiter avant-hier. J'espère que Jupiter existe toujours et j'espère l'observer ce soir.
C'est ça.
En fait, c'est une chose. Je l'ai expliqué récemment sur Twitter. Ça avait choqué pas mal de personnes. J'aime bien dire que c'est un plan de drague un peu foireux des fois. Des gens disent regardez cette étoile, elle est peut-être déjà morte, ce qu'on voit dans le passé. En fait, ce qu'il faut voir déjà à l'œil nu, évidemment, ce qu'on voit sont des choses très proches. Donc l'étoile la plus lointaine visible à l'œil nu, elle est à peine à 10 000 années-lumière. Donc si vous regardez une étoile, il y a très peu de chances que vous preniez une au hasard, qu'elle soit déjà morte. Par contre, avec le télescope, évidemment, on peut voir des choses beaucoup plus loin. Mais avec le James Webb, on est capable... Ça, c'était Olivier Bernet qui en parlait sur France Culture hier. Il disait que c'est... lundi. Que c'était vraiment très intéressant que le James Webb, on pouvait observer à la fois des choses brillantes et des choses peu brillantes. Donc, si on observe quelque chose dans le système solaire, évidemment, il est encore vivant. Les planètes ne sont pas mortes. Si on observe des étoiles dans la galaxie, elles sont encore vivantes aussi.
Ouais.
Si on observe une galaxie comme les premières qu'on a vues il y a 13,1 milliards d'années, on ne sait pas si elles sont mortes, mais elles sont certainement très différentes. C'est-à-dire que les premières galaxies qu'on observe, elles sont plutôt petites et elles ont accrété, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer en collision et former des galaxies de plus en plus grandes. Et donc elles vont évoluer. Mais non, tout ce qu'on observe avec le James Webb n'est pas mort.
Dont Jupiter, effectivement, avec des super images. Hein, Roman Le Gann, qu'on a vu récemment, avec une précision là aussi géniale. On voyait des vents, des tempêtes, les brouillards sur la planète. Ça, c'est extraordinaire aussi quand même, hein.
Ah bah cette image, ouais, elle était splendide et aussi de voir les aurores en fait qu'on voit juste dans l'UV et l'infrarouge et qu'on voit pas dans le visible sur Jupiter, c'était impressionnant de détecter des nouvelles lunes, de voir ce disque très fin autour de la planète. Tout ça, c'était absolument incroyable. Ouais.
Justement, vous qui vous intéressez aux pouponnières d'étoiles, hein, donc comme notre Soleil, hein, finalement, c'est l'enfance, la prime enfance de notre Soleil. Les toutes premières dans l'univers, elles apparaissent quand les étoiles?
Alors, on pense qu'elles apparaissent assez tôt. Hein. Quelques millions d'années après le Big Bang. Et donc, oui, l'un des objectifs de James Webb, c'est aussi d'aller observer ces premières étoiles, donc appelées premières lumières, et d'essayer de remonter comme ça à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang pour nous en apprendre un peu plus sur ces premières étoiles.
Qui seraient très différentes des étoiles qu'on connaît aujourd'hui, comme notre Soleil, où a priori c'est des étoiles semblables.
Alors oui, elles sont très différentes, donc ça je pense que Eric peut en particulier le détailler sur leur composition, mais leur composition élémentaire était beaucoup plus primordiale que la nôtre, que notre étoile qui s'est formée en fait déjà à partir d'anciennes étoiles mortes qui ont explosé et qui ont redistribué leur matière et leurs éléments lourds dans le milieu interstellaire, à partir duquel s'est nourrie notre étoile. Donc peut-être que Eric, tu peux compléter sur la composition de ces étoiles.
Bah déjà, je pense que... Merci Marie.
Mais je vous en prie, mais faites l'émission tous les deux, on vous laisse, on a un café à prendre.
Bonne journée. Non, mais en fait, la principale différence, c'est que les premières étoiles qui sont formées, c'était des mastodontes. C'était vraiment des étoiles très très massives, plusieurs centaines de fois la masse du Soleil. Et du coup, elles émettaient un rayonnement très énergétique. Elles ont une durée de vie très courte aussi. Et elles émettent du rayonnement très énergétique, donc elles vont briller plutôt dans l'ultraviolet.
Mm-hmm.
Et comme l'univers est en expansion, ça va décaler la lumière vers le rouge. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, que vous pouvez voir tous les jours si vous écoutez une ambulance quand vous êtes en voiture. Vous voyez quelque chose qui se déplace, va changer de fréquence, et donc la lumière qui s'éloigne de nous va se décaler vers le rouge. Donc cette lumière, elle a été émise dans l'ultraviolet, et à cause de l'expansion de l'univers, elle s'est décalée vers le rouge. On l'observerait maintenant, a priori, dans l'infrarouge, et donc on devrait pouvoir le voir avec le James Webb.
Eric Lagalec, puisque James Webb est aussi tourné vers notre propre système solaire, on parlait de Jupiter, est-ce qu'il pourrait tomber sur cette fameuse 9e planète ou pas?
A priori, ça serait quand même compliqué, parce que donc, cette 9e planète, que j'explique rapidement, donc si on étudie le mouvement des planètes dans le système solaire, on peut l'expliquer a priori avec la gravitation, avec ce qu'a expliqué Newton. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été découvert Neptune il y a 176 ans hier, je me rappelle si j'ai bonne mémoire. Donc en étudiant le mouvement des planètes, on peut voir s'il y a quelque chose qui la perturbe à côté. Donc avec ça, Urbain Le Verrier a permis de détecter Neptune.
Mmh.
Et là, des calculs, notamment de mon ami et collègue Alessandro Morbidelli, semblent indiquer que loin dans le système solaire, il y aurait une planète.
Oui,
mais
bah
le problème, c'est que c'est quelque chose qui est très loin dans le système solaire, donc c'est quelque chose qui bouge très peu, pas rapidement justement, et qui émet très peu de lumière. Mm-hmm. Donc du coup, pour l'observer, il faudrait plutôt avoir un télescope qui observe des grands champs, qui observe des grandes portions du ciel. Donc à mon avis, avec le James Webb, ça va être compliqué. Il faudrait plutôt attendre le Vera bon. Rubin Observatory, qui est un observatoire en construction au Chili, qui va faire des cartes du ciel très grandes toutes les deux nuits. Et là, on devrait pouvoir voir si on voit une planète qui bouge et peut-être trouver enfin une neuvième planète
du
système solaire.
C'est en l'aiguille dans la grosse botte de foin. Alors on a bien compris. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous de la part des auditeurs pour parler des images de James Webb juste après Kent et J'aime un pays sur France Inter.
J'aime un pays qui a le paf tout ramolli. Dans ce pays, il y a des chanteurs pour l'Arménie. Mais il y a surtout un paquet de bénis, oui, oui. Et quand ça chie, on n'est pas beaucoup dans le maquis. J'aime un pays pour la liberté d'expression, à condition que ça puisse rapporter des ronds. Tout est permis de Jean-Marie à Khomeini. Aussi tant pis pour ceux qui croient à tout ce qu'on dit. J'aurais préféré une chanson d'amour sans un mot déplacé tout en détour, baigné d'insouciance et sourire en fleurs. Mais j'ai comme un haut le cœur. J'aime un pays où tout le monde a la parole, surtout les jeunes qui aiment bien le rock'n'roll. Celui qui brille, celui qui mousse et fait des bulles. Belle jeunesse qui rit quand on l'enfume. J'aime ce pays, j'y peux rien, c'est dans ma nature. Je dis tout ça pour faire le malin, ça c'est sûr. Tant pis pour moi si après ça on est embrouillé. Mais mon amour, tu sauras qu'au moins j'ai les boules.
Et c'est Kent sur France Inter. Allez, Camille Crony, encore quelques questions pour nos invités astrophysiciens pour parler de James Webb et de ses belles images.
Oui, je voudrais savoir, Romane Le Gall, comment fonctionne James Webb? Alors, on parle de sobriété énergétique pour tenir 15 ans. Et d'ailleurs, David demande sur franceinter.fr le bilan carbone du télescope.
Alors, attention, hein, vous êtes surveillé de près. Là.
Alors, donc oui, alors ça nous permet de repréciser. Donc, il a été envoyé à bord d'une Ariane 5, hein, donc par l'ESA, mission qui a été complétée, qui a abouti à la perfection. Et donc, il a embarqué à son bord du carburant et des panneaux solaires. Donc, le premier module qui s'est déployé du télescope et qu'on a vu une belle photo, c'était le panneau solaire du James Webb. Donc, il s'alimente comme ça de la lumière du soleil. Et c'est pour ça qu'il est en orbite, d'ailleurs, autour du point de Lagrange 2.
Ouais.
Et il a également du carburant embarqué pour lui permettre de maintenir, en fait, son orbite autour de ce point de Lagrange 2. Et c'est ce carburant qui déterminera la fin de sa vie. Et c'est ce carburant qu'on a économisé grâce à Ariane 5, hein, la perfection, en fait, des calculs qui avaient été faits pour la trajectoire de l'envoi du James Webb depuis la Terre jusqu'au point de Lagrange 2, a été tellement, le calcul était tellement précis qu'on n'a pas dû utiliser de carburant pour rectifier sa trajectoire.
Et alors, Éric Lagadec, en termes d'essence dans le moteur, ça représente quoi alors exactement?
C'est difficile à calculer,
mais
c'est un travail qui est fait. Enfin, je dois préciser d'ailleurs qu'au sein de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, on travaille vraiment à réfléchir à notre impact carbone, parce que je pense que c'est important aussi de montrer l'exemple. Et donc, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a un article qui a été publié par un collègue toulousain dans Nature.
Ouais.
Et donc, la réflexion que l'on a, c'est comment réussir à faire de la meilleure science possible, parce que je pense que l'astronomie, c'est une science qui fait un peu rêver les gens et qui permet aussi de mieux comprendre la science, tout en utilisant le moins de carbone possible. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on a dans les années à venir, et j'espère qu'on arrivera à le faire.
Éric Lagadec, ça fait quelques mois que vous êtes très 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 actif sur Twitter. J'ai regardé le nombre de tweets que vous avez envoyés, au total 15 800 tweets. Vous parliez de Joe Biden tout à l'heure, je viens de regarder le compte du président américain. américain, c'est 3000 tweets. Donc, vous l'explosez son score. Combien de temps vous y passez? Est-ce que quelque part, vous ne le faites pas aux dépens des recherches pures? Est-ce que vous êtes en train de vous transformer en influenceur scientifique?
Déjà, je pense que j'ai moins de followers que Joe Biden, donc il est plus efficace que moi, visiblement. Et les tweets, faut
combien
dire,
d'heures
plupart,
par jour?
Non, ça se compte pas en heures, ça va très vite. En général, je vois quelque chose, je retweet. Et,
mais vous vous concentrez du coup sur vos travaux à côté ou pas? Parce que moi, je vous vois tout le temps sur Twitter, Eric Lagadec dans tous les sens.
Non, oui, évidemment, je me concentre sur mes travaux. Là, je suis au mois de novembre, on va faire des nouvelles demandes pour les observations de James Webb. J'espère, on a des observations dans la queue là qui sont prévues. On discutait avec nos collègues japonais cet après-midi. Mes étudiants burkinabés qui travaillent, parce que ça, c'est très un bien. Gros projet aussi, travailler au développement d'astronomie en Afrique, ça avance.
Bon.
Donc, les journées se font que 24 heures, mais on essaie d'être le plus, plus optimisé.
Je suis sûr que vous allez avoir de nouveaux abonnés parce que vous glissez quand même toujours des super images tous les jours. Et moi, je me régale grâce à vous. Merci beaucoup, Eric Lagadec et Roman Legal, d'être passés dans la Terre au Carré aujourd'hui. À bientôt.